le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Olivier Babinet, réalisateur du film Swagger, qui sort en DVD à partir de lundi. Et précipitez-vous, parce que si vous ne l'avez pas vu en salle, c'est dommage, mais vous allez vous rattraper et vous régaler même chez vous. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Laurent Malot, Lucky Loser, c'est le titre de son roman aux éditions Albin Michel Jeunesse. Mais alors, c'est à lire à tous les âges. J'y ai passé un week-end passionné, je ne suis pas sortie jusqu'à ce que j'ai fini ce magnifique roman. J'ai encore reçu un message de Carmela et de son ami le grillon Negrito. Nos deux amis sont toujours sur les routes de France pour dire et distribuer des poèmes ou des textes en marge des meetings de la présidentielle. J'ai appris que certains candidats ou candidates ont essayé de les chasser brutalement, mais ils ne connaissaient pas la ténacité de la petite Carmela et de son grillon Negrito. Voilà donc leur dernier message. Nous ne comprenons pas pourquoi les candidats à l'élection présidentielle ont peur des textes de Shakespeare, de Louise Michel ou d'Élisée Reclus. Alors, cette semaine, nous diffuserons une chanson en exclusivité, car l'album n'est pas encore fini. Nous te la confions, fais-en bon usage, à la semaine prochaine. Alors voilà, je vous fais écouter cette chanson en exclusivité mondiale sur France Culture.
Il n'y a pas qu'ici qui sont haïs des autres,
car leurs modes de vie sont différents des nôtres.
En plus, vous comprenez, ils sont pas adaptés.
On dit que c'est culturel.
C'est peut-être bien naturel. Ils se marient entre eux,
restent dans leur ghetto.
Se croient partout chez eux,
veulent pas payer d'impôts.
Prendre l'argent du beurre, là où on les assure.
Ce sont tous des voleurs.
Regardez leur voiture. Décevant les riches, ils font aucun effort. Ils veulent pas s'intégrer, faut les mettre dehors.
Dans la rue, on les croise, on est un peu gêné.
Les gens de loin les toisent, comme ils sont habillés.
Et même leurs enfants, ils en ont dû flopper.
Toute une éducation qu'il faut recommencer. Décevant les riches, ils font aucun effort. Ils veulent pas s'intégrer, faut les mettre dehors.
Se loger autrement, pour eux, ce sera dur.
Vivre en appartement, c'est pas dans leur nature.
Leur spécificité n'est pas à se mélanger.
Mais les HLM,
ils tiendront pas la semaine. Essayez de les faire travailler. Allez donc vous risquer à les faire embaucher.
Sur un chantier,
ils nous mettent en danger.
Au nettoyage,
il faut recommencer.
Dans une usine,
ils voudront diriger.
Comme caissière,
on voudra recompter. C'est décevant les riches. Aucun effort. Ils veulent pas s'intégrer, faut les mettre dehors. Ils veulent pas s'intégrer, on les mettra dehors.
C'était Les Riches de la compagnie Jolimomes, conseillée par Carmela et Negrito. On peut retrouver les Jolimomes chez eux, à la Belle Étoile, à Saint-Denis. Leur nouvelle pièce, c'est L'exception et la règle de Bertolt Brecht. Et ça se joue du 17 mars, depuis le 17 mars jusqu'au 22 avril. Pour tout savoir, vous allez sur le site de la compagnie Jolimomes et vous aurez le programme de leur déplacement, de leur spectacle et de leur débat et de tous les ateliers qui se font en Seine-Saint-Denis. Et les jeunes viennent aussi là faire du théâtre, de la chanson et plein d'autres choses, comme les jeunes de vos deux œuvres, le roman Lucky Loser ou Swagger, pour vous, Olivier Babinet, ce sont des jeunes gens, des adolescents, qu'on n'écoute pas assez, qu'on méprise souvent, et dont on croit qu'ils ne comprennent rien au monde ou qu'ils sont trop jeunes pour avoir un avis dessus. Et là, heureusement, vous leur donnez la parole. Alors, j'avais envie de commencer avec le roman Laurent Malot, parce que c'est quand même rare, les romans pour adolescents, qui disent ceci. Adèle a été la première à se lever. Deux autres ont suivi, puis 10, puis toute la classe. Romino a tenté de nous faire rasseoir, mais c'était trop tard. Quelqu'un a lancé que la vraie vie ne s'écrivait pas en classe et que s'il y avait quelque chose à faire, c'était dans la rue et tous ensemble. C'est ce jour-là que le mot « grève générale » a été prononcé pour la première fois. C'est rare aujourd'hui d'appeler à la grève générale, non, Laurent Malot?
Oui, peut-être, mais on va voir. Peut-être que c'est prémonitoire.
J'espère. Alors, si votre livre est prémonitoire, c'est magnifique.
Des jeunes qui s'occupent de l'avenir social, moi, je crois qu'il y en a plein. Il y en a dans le mien, il y en a dans le film d'Olivier. Et puis, on approche des élections, alors pourquoi pas?
Alors, justement, vous le dédiez à tous les rêveurs, les utopistes, les épris de justice, ceux qui continuent de croire que le monde peut devenir meilleur et qui mettent tout en œuvre pour y parvenir. Votre héros est anglais par son père, français par sa mère, breton même. Il est bien ancré dans le territoire national, mais il est ancré aussi dans la patrie de son père qu'il a dû quitter avec ses parents au moment du divorce des parents, le père ayant été surpris par la mère dans les bras d'un autre homme. Et voilà ce qui se passe à un moment donné. Le jeune Jean, le narrateur, dit ceci. « Si c'était comme ça qu'il avait été levé, moi pas. » J'étais né après les années Thatcher, mais mes deux oncles m'avaient raconté en long, en large et en travers leur grève des mineurs dans les années 80. Ils y avaient tout perdu, mais sûrement pas leur âme. En plus, je croyais que la France était maître étalon en matière de lutte sociale. Ça me décevait encore plus. C'était important d'ancrer dans l'histoire réelle, concrète, tout au long du roman, cette histoire à la fois d'amour et de lutte de classe à travers un défi sportif. C'était important de faire des références très précises.
Ben oui, parce que c'est l'histoire. Là, j'ai pris il se trouve qu'il est anglais et j'ai pris les grèves des sidérurgistes sous Thatcher, mais il y en a plein. Ça pourrait être en Espagne, ça pourrait être en Italie, des références, il y en a partout. Et nous, on en a plein aussi et on n'est pas les seuls à lutter en France, oui, forcément. Enfin, malheureusement même.
Le lycée Balzac est un lycée de bourgeois, de grands bourgeois hein, même, on peut dire. Et il va envahir le lycée Saint-Hilaire au profit de travaux dans leur propre lycée. Donc, ils n'ont plus de bâtiment. Ils vont être accueillis pour une année scolaire dans le lycée public où il y a des classes sociales plutôt touchées par le chômage, notamment. Et cette guerre de classe sociale qui va se faire dans le lycée, comment les adolescents qui ont lu votre livre, et je redis que les adultes y trouveront un roman passionnant. Comment ces adolescents l'apprennent-elles, cette guerre des classes? Ça leur parle?
Alors, d'abord, juste pour préciser, tous les élèves du lycée Balzac, tous les bourgeois, ne sont pas des abrutis humiliants.
Non, ça, c'est la grandeur de votre roman. Il n'est pas manichéen et il est très subtil. Voilà, mais je le résume.
Il y en a trois, qui eux friment avec leur sport, avec leur argent, avec leur facilité dans la vie, et qui eux sont facilement humiliants. Pour répondre à votre question, les lecteurs ados qui ont lu ça, eh ben, ça les a touchés parce que eux, les injustices, et ils les voient comme nous tous, comme nous les adultes. Ils les vivent. Alors, peut-être il y a un peu plus d'insouciance parce qu'ils sont encore au lycée, mais ils savent en tout cas que ils vont être touchés de plein fouet dès qu'ils vont travailler. Donc ils sont pas si innocents que ça. Donc ça les touche et ils se disent bah oui, il va peut-être falloir faire quelque chose.
Alors, tout le roman tourne autour de ce défi sportif qui, derrière, bien sûr, est aussi une guerre des classes avec la fierté. Et c'est vrai qu'il n'est pas caricatural. Il n'y a pas le bon et le méchant. Il y a des conflits de loyauté, il y a des trahisons. Tout ça est très présent dans chacun, presque.
Mais de toute façon, c'est compliqué le combat. On s'improvise pas comme ça. Et d'ailleurs, Sean, au départ, il devient une icône, mais il est comme les autres élèves, sauf qu'il va être plus touché que les autres, il va se révéler un leader. Vrai combattant, et d'ailleurs on va l'appeler le Che, mais tout ça malgré lui.
Oui, et il essaie de résister à un moment donné d'ailleurs. Il dit, ce n'est pas moi qui ai fait sortir les élèves dans la cour, c'est l'injustice qui a frappé une fois de trop. Vous voulez savoir quand on rentrera en classe? Quand le monde sera devenu juste. Il a quand même l'esprit de répartie.
Oui,
à plein d'endroits. Enfin, c'est vous, Laurent Malot.
Oui, c'est moi parce que j'aime ça. Et puis moi, j'avais le temps de l'écrire. Donc, lui, c'est sûr que c'est sorti comme ça face au proviseur. Oui, c'est plus.
Il va avoir aussi une histoire d'amour dans cette histoire.
Ce qui déclenche d'ailleurs l'histoire.
C'est d'ailleurs ce qui déclenche
l'histoire. Parce que c'est un peu comme Roméo et Juliette. Lui, il est du lycée Saint-Hilaire, lui, le prolétaire. Et puis elle, Camille d'Arincourt, elle est du lycée Balzac. Et surtout, fille de Éléonore d'Arincourt, qui détient la plus grosse entreprise de la ville. Cette entreprise qui va licencier 150 personnes d'un coup.
Alors, je ne sais pas si ce roman est prémonitoire, mais il l'est déjà pour l'avenir, mais il l'est déjà pour le présent, si j'ose dire, parce que la fraude fiscale, enfin, énormément de choses qui encombrent l'actualité sont quasiment présentes déjà dans votre roman, donc il est d'une grande lucidité. Et puis, il y a moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont ces scènes lorsque le héros et son père sont confrontés aux riches, parce que le père peint et la mère de cette jeune fille dont il est amoureux, qui s'ennuie, qui est richissime, s'en tiche de la peinture et peut-être un peu du père désœuvré et chômeur. Et y a là une confrontation des deux classes. Et beaucoup de paradoxes, d'angoisses, de désirs contrariés. C'est vraiment très très fort de voir comment vous décrivez ce moment-là, très très fort.
Et là, on est toujours dans l'humain, en fait. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, avant tout, on est humain. Et pourtant, on se sépare sur des choses qui, moi, me paraissent futiles. Je pense que Sean aussi, sur des niveaux sociaux et qui n'ont pas lieu d'être. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la fraude fiscale, des affaires politiques, pendant toute l'écriture du livre, j'avais cette phrase d'un homme politique qui se présente là pour les élections, qui disait « Levez-vous le matin en ayant l'ambition d'être milliardaire ». Et moi, j'avais plutôt la phrase suivante qui reprenait, parce que je la trouvais un peu choquante, celle-là « Levez-vous le matin avec l'ambition d'être heureux ». Et ça s'adresse à tout le monde. Et là, on n'est plus dans la lutte des classes et peut-être qu'on arrivera effectivement à faire un monde meilleur.
En tout cas, on a envie de le croire et vous nous donnez l'énergie de continuer à y croire dans Lucky Loser. Merci Laurent Malot pour ce magnifique roman. Aux éditions Albin Michel, prenez-le un début du week-end parce que vous n'aurez pas envie de le lâcher. Donc, ce serait dommage d'arrêter le lundi ou de prendre une journée de congé pour finir ce livre. Dans le film, dans votre film, Olivier Babinet, je suis ravie de vous recevoir, dans Swagger, là aussi, il y a les ambitions des jeunes, il y a les rêves des jeunes. Et là non plus, ce ne sont pas des jeunes. Vous n'êtes pas allé à Aulnay-sous-Bois en disant, voyez comme ces jeunes gens sont magnifiques, ils sont parfaits. Non, vous les avez regardés, à la fois vous les avez magnifiés, c'est ça qui est fou, mais en même temps, vous les avez regardés en face, les yeux dans les yeux, et vous les avez écoutés parler. Avec un dispositif assez particulier, puisque la plupart du temps, ils sont face caméra, seuls avec vous et l'équipe, mais vous montrez avec des plans de coupe d'autres des camarades qu'on va retrouver aussi seuls face caméra, comme s'ils les écoutaient, comme s'ils acquiesçaient, et comme s'il y avait un débat entre eux qui, au fond, n'a pas lieu, parce que c'est difficile peut-être de débattre quand on est dans la même ville, dans la même cité, dans le même collège ou lycée. Et ce dispositif, je trouve, est extrêmement humain. Ça donne toute la place à chacun, en respectant chacun dans son rythme.
merci. Et c'est aussi peut-être ludique un peu.
Oui,
c'est humain et ludique parce que je voulais qu'on s'intéresse à ce qu'il raconte et donc créer un dispositif qui ferait qu'on serait complètement passionné et happé par leurs paroles. Après, c'était aussi pour montrer leur différence parce que comme je trouve qu'on les met dans le même sac la plupart du temps, de montrer tous ces points de vue différents, ces religions différentes et puis aussi tous leurs points communs, qu'est-ce qui fait qu'ils forment une communauté là-bas, Aulnay-sous-Bois, Sevran, qu'est-ce qui les lie, mais aussi, voilà, des fois ils ont des points de vue diamétralement opposés. Et c'est important de le montrer.
Oui, mais vous montrez tout, vous cachez rien. Alors d'abord, peut-être un mot sur le titre. J'évoquais Shakespeare tout à l'heure avec Carmela, qui dit des sonnets de Shakespeare aux portes des meetings présidentiels. Swagger, c'est un mot que vous avez découvert grâce aux jeunes. C'est eux qui l'emploient.
Oui, ils employaient quand je suis arrivé, donc, parce que j'ai presque traîné mes basques 4 ans là-bas, en tout. Et quand je suis arrivé, ils employaient le mot swag. Donc il y avait des petits graffitis sur les tables, swag. Très peu de graffitis hein, là-bas, avec le principal du collège qui est un ancien gendarme, ça rigole pas. Et donc je me suis intéressé à ce mot.
On va mettre des anciens gendarmes dans tous les collèges, ça pas du tout ça.
Ouais. Et swag, c'est donc ils employaient ce mot. Je me suis intéressé à ce mot. Puis j'en reparle 6 mois après. L'un d'entre eux qui s'intéresse beaucoup à la mode me dit mais ça se dit plus. Il me regarde comme une espèce de chaussette sale en me disant, mais un peu méprisant comme ça, de l'adolescent qui voit un adulte qui essaye de rester dans le
coup. C'est Régis.
Et puis il me dit, ça se dit plus, maintenant on dit swagance, on dit swagologue, tes soins, tes frais.
D'ailleurs, il parle très bien, Régis. Il a un sens de la langue très pointu. Il rature souvent ses propres mots pour être encore plus précis. Il a une très belle langue, Régis.
Oui, et puis aussi un sens du récit, de la chute.
C'est un esthète.
Ça rebondit, ça. Oui, c'est des dialogues très bien écrits, mais ils sortent de sa bouche, personne ne les écrit, à part la petite personne qui tape dans sa tête ces dialogues. Mais,
et qui couche ses habits, parce que c'est un jeune homme qui ose afficher sa différence, c'est-à-dire un goût excessif, enfin excessif, j'en sais rien, mais un goût énorme pour la mode. Il va au lycée avec un nœud papillon, avec des manteaux de fourrure, il couche ses propres vêtements, il rêve d'être styliste, et il n'est pas moqué, il a réussi à faire sa place, parce qu'il a su aussi se bagarrer. Il nous le raconte, ça.
Oui, il raconte qu'il s'est battu à un moment, qu'il a fallu se battre, parce que sûrement il était...
Physiquement, comme un gladiateur, dit-il.
Oui, voilà, ils se battent sur le terrain pas loin du collège, et il a gagné, et il s'est fait respecter. Et oui, c'est quelqu'un, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit une victime, oui. Mais en fait, c'est quelqu'un de charismatique, qui a beaucoup d'humour, donc il faut se lever tôt le matin pour arriver à le vanner, parce qu'en retour, on va quand même se prendre une bonne dégelée. Je parle en connaissance de cause, parce qu'on a souvent des joutes verbales. Ouais. Il me critique souvent ma manière de m'habiller ou je sais pas quoi, donc faut que je me défende. Et mais il a ce sens de la répartie, puis effectivement, physiquement, quand il a fallu y aller, il y est allé. Et c'est plutôt quelqu'un qui protège les faibles, en fait, là-bas. Ouais. Et je me souviens de quelque chose qui n'est pas dans le film, mais à un moment, il disait qu'il y a une fille qui s'était moquée de lui sur les réseaux sociaux. Et puis il me dit, oui, je me suis occupé de son cas. Alors, comme il y a un silence, comme on a l'impression de voir un espèce de parrain qui parle, il dit oui, j'ai envoyé une copine. En gros, il a envoyé une copine pour séduire le mec de cette fille et lui briser le cœur. Et puis après, il m'a dit, puis bon, comme je suis délégué du collège, de toute façon, elle s'est fait virer. Quoi, bon, puis il s'est occupé de son cas. Quoi. Il n'a pas coulé dans du béton, mais voilà, il a envoyé une copine et puis.
Alors, il y a les faibles, il y a ceux qui sont en souffrance, et pour qui ça se voit plus que d'autres, parce que certains sont en souffrance, mais arrivent à surmonter ça, mais Aïssatou est très touchante, c'est cette petite fille, à un moment donné, vous leur demandez à tous comment ils s'appellent, c'est une sorte de générique, hein. Je m'appelle un tel, et elle n'arrive pas à se souvenir de son prénom. Ça pourrait faire rire. D'ailleurs, au début, dans la salle, ça fait un peu rire. Et puis, de moins en moins. Car plus tard, elle va dire, mais je ne me souviens de rien de mon enfance. Et plus tard encore, elle va dire, mais ma mère m'a dit de me méfier de tout le monde. Donc, je n'ai confiance en personne. Et encore plus tard, elle va raconter quand même un souvenir qui va finir par lui remonter, parce qu'elle est en confiance enfin avec vous, sans doute. C'est celui de la maternelle où une institutrice l'a harcelée, ni plus ni moins harcelée. Et c'est dit, c'est perlé tout au long du film, et c'est ça votre finesse à vous, votre respect à vous pour tous ces jeunes gens et leurs paroles. Vous n'en faites pas des stars, même ceux qui sont des stars nés comme Régis. Vous les protégez de ça aussi, et vous les respectez, et vous n'avez pas fait un récit sensationnel. Vous avez juste accompagné cet accouchement un peu difficile de quelqu'un qui finit par dire « je », par dire son prénom, et par dire... une de ces douleurs fondatrices. Oui. C'est comme ça que vous les avez abordées ?
Non, j'étais en train de... Ça me renvoyait des souvenirs de moi, ma propre enfance, parce que c'est vrai que des professeurs peuvent être très blessants et humiliés. Il y a plein de professeurs qui font très bien leur travail, mais il y en a certains qui sont... Et je me souviens, j'ai fait de la danse classique pendant un an, quand j'avais 7 ans, et on avait un prof de danse. Il y avait une fille un peu grosse, donc... On était des enfants de 7 ans, voilà, avec les petites filles qui ont le corps de danseuse. C'était au conservatoire, donc c'était... Et il appelait cette fille qui était grosse sandwich, parce qu'il voulait éliminer ceux qui rentraient pas dans le cadre. Et c'était affreux, il faisait des blagues là-dessus, elle avait oublié ses affaires. Un jour, il lui dit « Ah, sandwich ». Et elle lui demandait « Qu'est-ce que je fais, monsieur ?»« Bah, sandwich, t'attends le bus, tu restes debout ». Et donc tout le monde riait comme ça. C'était une scène vraiment affreuse. Bon, je m'éloigne du sujet. Mais...
Oui et non, parce que je crois qu'il faut se souvenir de sa propre enfance pour pouvoir rejoindre celle des autres et de ces adolescents. Alors, il y a presque des thèmes, des thématiques. Vous avez pris l'amour, par exemple. Il y a des moments magnifiques sur l'amour, touchants, attendrissants, d'autres douloureux. Leur histoire personnelle, cette jeune fille qui a vécu, je ne sais pas si dans quel pays c'était, à Stan, mais qui a vu des gens assassinés sous ses yeux.
Alors là, c'est drôle que vous me disiez ça, parce que c'est peut-être ce qui fait que le film est particulier. En fait, dans le film, là, à ce moment-là, elle est en train de raconter un rêve.
Ah, c'est un rêve.
Un cauchemar qu'elle a fait. Mais... La mise en scène, et c'est donc un vrai cauchemar qu'elle a fait, qu'elle nous raconte. Mais comme la caméra s'approche, il y a de la musique qui dramatise ce moment. Et en fait, elle est en train de raconter un rêve. Après, derrière ce rêve, elle raconte qu'un homme habillé tout en noir a tué toute sa famille avec une mitraillette. Donc, ça part d'une peur qu'on partage tous depuis les attentats et que les habitants d'Aulnay aussi partagent. Et avec nous, les Français, nous tous, on partage cette peur.
Et tous sont apaisés par la religion, que ce soit la religion catholique, la prière, que ce soit la religion musulmane, la lecture du Coran. Tous disent ça et là aussi, on les entend autrement. Mais il y a des moments où ils sont moins sympathiques, parce qu'ils sont aussi victimes des préjugés. Et on va écouter un extrait de votre film sur ce côté moins sympathique, il faut le dire.
Les Roms, il y en a qui... La plupart des Roms, c'est des voleurs. C'est un cliché, je sais pas si c'est vrai. Mais on ne sait pas, ils trouvent l'argent.
La police, elle a trouvé 5000 euros dans les cabanes en carton. J'ai vu ça à la télé, un reportage. Pour moi, ils abusent un peu. Ils demandent tout le temps.
S'ils se mettaient à travailler, vu comment ils sont nombreux, ils pourraient faire beaucoup d'argent. Et après, s'acheter une maison légalement. Et boire. On peut dire que c'est mal payé, mais si ils s'y mettent à plusieurs, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Les Roumains, ils vivent dans des camps parce qu'ils le veulent. Que s'ils auraient un travail, ils auraient acheté une maison.
Ils envahissent. C'est pas que... Ils envahissent un peu trop. Il y a des Roms qui sont tranquilles, qui habitent chez eux, qui font pas autant de boucans. Mais ça, ils abusent un peu trop.
Ben moi, ils me dérangent pas, les Roms. Mais je crois que c'est leur culture.
Je leur trouverai un terrain abandonné et je leur donne. Ou je leur vends. Les enfants, ils auront l'école gratuite obligatoire, ça fera qu'ils savent des trucs. Et après, ils peuvent gagner leur vie. Et puis, ils peuvent s'en sortir.
Je pense qu'ils ont peur que si l'enfant va à l'école, ils vont savoir que c'est un Roumain. Et ils ont peur qu'ils se fassent dénoncer.
Victimes de clichés eux-mêmes reproduisent les clichés. C'était douloureux, non, de les trouver comme ça après tant de moments géniaux avec eux.
Oui, oui, on a mis du temps à monter ça parce que, comme bon, la monteuse et moi-même, on était très attachés à eux. Oui. Mais c'est important qu'on les monte. Je suis très content qu'on les monte parce que ça montre que le racisme est quelque chose qu'on retrouve partout et qu'il y a toujours, on désigne toujours des boucs émissaires qui sont souvent des populations faibles et démunies et on les rend responsables des problèmes et ça arrange bien les politiques qu'ils soient de droite, de gauche ou d'extrême droite, il y a toujours un moment où on désigne un bouc émissaire et plutôt que de qu'ils fassent leur travail, ça les arrange bien et ça nous divise, ça divise la population. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est les mêmes mots qu'emploierait un raciste blanc traditionnel avec les noirs et les arabes. C'est des voleurs, ils font des boucans, il ferait mieux de trouver un vrai travail. C'est exactement les mêmes mots.
Mêmes qu'emploient les jolis mômes au début dans la chanson pour désigner les riches. Alors Naïla, elle est merveilleuse, c'est une des plus jeunes. Pas qu'elle ait réponse à tout, elle analyse tout. Et elle essaie de trouver des solutions à tout, elle veut être architecte, elle a tout compris. Et elle a peut-être trouvé justement le grand ordonnateur de cette haine qui nous divise.
Disneyland, j'y étais que quelques fois. Et en plus, je me rappelle, il y a une photo, je suis à côté de Mickey. Et franchement, cette photo, j'ai envie de la brûler. La personne qui a inventé Mickey, c'est la personne qui s'est dit, pourquoi pas, c'est Mickey qui va être la clé pour que je sois le maître du monde. Mais cette personne, elle est morte. Donc, on peut plus la retrouver. Donc maintenant, c'est Mickey qui est le fautif. À moins qu'on y aille dans sa tombe et on lui pose des questions. Et ça, on n'aura aucune réponse. Il n'y a aucun épisode de Mickey que j'aime. Ça me fait peur, Mickey. C'est une souris qui parle et qui chante et qui danse. Quand je le vois, je dis, non, c'est pas vrai. Il est revenu. Mickey, il a pris une potion magique pour grandir. Il s'est dit, pourquoi pas, je vais dévaster le monde. Après, il a dit, je vais passer dans un dessin animé pour faire croire que je suis gentil et tout ça. Comme ça, les enfants, ils vont bien l'aimer. Et quand ils vont le voir, ils vont faire, Mickey. Après, il va les prendre avec eux, il va leur couper la tête. Après, quand il va leur couper la tête, eh ben, il va tuer les parents. Comme ça, après, il n'y a plus personne sur la terre. Et comme ça, tout le monde meurt et c'est lui qui règne sur le monde. Alors, les poupées Barbie, c'est les pires. Hein. Après Mickey. Franchement, les poupées Barbie, déjà, elles ont tous la même taille. Il n'y en a pas une qui est brune, châtain. Non, elles sont tous blondes. Ça veut dire qu'en fait, ils sont plusieurs. C'est une grande équipe. Elles vont être avec Mickey. Ça veut dire qu'après, les poupées Barbie, elles vont venir, elles vont tuer les gens comme Mickey. C'était des personnages pour amuser les enfants. Mais il y a certains enfants qui les voient vraiment de la même manière que moi. Et franchement, ils font très peur les deux.
C'est drôle parce que quand j'ai vu le film en salle, j'ai pas du tout pensé, mais en réécoutant là, je pensais à Trump et à sa femme.
Ouais, c'est peut-être une vision prémonitoire. Mais oui, il y a des gens qui voient une espèce de vision de l'Amérique, oui. De l'impérialisme. C'est aussi un délire de petite fille qui s'amuse à aller au bout d'une logique.
Oui, elle est très drôle, elle a une imagination folle.
Ouais, Naïla, c'est vraiment une fleur qui a grandi comme ça. À Aulnay, qui a tellement de lucidité, de maturité. C'est elle qui dit les Roms, je leur trouverai un terrain.
Oui, mais c'est elle. Elle veut être
quand je parlais des points de vue différents, d'ailleurs, même là, il y en a qui ont des préjugés qui sont racistes. Puis il y a aussi Naïla qui dit, faut aller à l'école de la République. Et Naïla, c'est, je le dis là, mais son éducateur sportif, c'est Théo.
Non.
Et voilà, et elle l'aime beaucoup.
Non. On est avec Théo, bien sûr, et Ormanif et ailleurs, et par le cœur aussi, et avec Naïla et tous ses amis et tous ceux qui l'aidaient à avoir un peu d'espoir dans cette vie pas toujours facile. Merci d'avoir fait ce magnifique film, Olivier Babinet, qui sort en DVD à partir de lundi, Swagger. Voyez-le, revoyez-le, re-revoyez-le, en famille, tout seul. On ne s'en lasse pas. Merci aussi pour le roman Laurent Malot, Lucky Loser, chez Albin Michel. Merci à tous d'être venus ici. Vous pouvez retrouver, télécharger cette émission sur franceculture.fr. Le Temps Buissonnier, c'est toute une équipe, Aline Payen, Laure Chanel, Annie Comier, et à la technique aujourd'hui, Benjamin Vignal. Je vous laisse en compagnie des programmes de France Culture et d'abord le premier journal de la journée. Bon dimanche.